Est-ce que vous m'entendez bien? Ça joue bien, c'est bon, parfait. Bienvenue alors à ce café scientifique consacré à une thématique qui nous concerne toutes et toutes, puisqu'évoquant nos racines, notre enfance, notre identité. Alors oui, son titre, pour un français propre panneau sous serpillière, est un peu provocateur, un chouïa, comme on dit par chez nous, et à juste titre, parce qu'il rappelle en fait la mauvaise réputation qu'a le parler roman auprès de nos voisins français. Pourtant, une série d'enquêtes menées par des chercheurs belges, français, suisses et coordonnées par l'Université de Neuchâtel a démontré que le français parlé jouissait d'une belle vitalité, que ce soit en Suisse, en France ou en Belgique. De quoi tordre le cou à de nombreux préjugés et surtout de se poser la question, mais finalement, qu'est-ce que le bon français? Alors, en quoi le français parlé diffère-t-il de ceux parlés en France et en Belgique? Doit-on en avoir honte ou revendiquer sa particularité? Est-ce du mauvais français? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que le bon français? Et finalement, qui a la légitimité de statuer sur ce bon français? Alors, pour en parler, nous avons trois intervenants, trois invités que je remercie chaleureusement d'être ici ce soir. Et je vais d'abord donner la parole à la seule dame du débat, qui est aussi l'initiatrice de l'une des enquêtes du français parlé qui a inspiré le café scientifique de ce soir. Donc, Federica Diemos, je vous laisse la parole pour vous présenter en quelques mots.
C'est bon. Bonsoir à tous. Ça marche. Bonsoir à tous. Donc, je suis Federica Diemo, directrice du Centre de dialectologie et d'études du français régional et directrice aussi de l'Observatoire du français en Suisse romande, observatoire qui a lancé ces enquêtes en ligne dont on parlera tout à l'heure. C'est juste ?
Exactement. Elle est aussi la directrice en intérim du glossaire.
Oui, du glossaire des patois de la Suisse romande qui est intégré à l'université de Neuchâtel. Oui.
Aussi à la tête de l'observatoire du...
Oui, tout à fait. De l'observatoire. En 2014, on a créé à l'université de Neuchâtel l'observatoire du français en Suisse romande, justement pour chapeauter toute une série d'activités, de projets qui tournent autour du français et notamment du français parlé.
Alors c'est très important parce qu'elle a à la tête de nombreux projets. Et donc, ces projets, vous pouvez les trouver dans ce Stuni News. Il y a de nombreux articles où les projets sont présentés. Donc, vous verrez, ils sont très intéressants et très diversifiés. De l'enseignement, on a Jean-François De Pietro, à qui je laisse la parole.
Oui, merci. D'abord, bonjour. Donc, je vais parler en mon nom d'abord, mais je vais parler un peu de la situation dans le monde scolaire. Donc, et je travaille à l'Institut de recherche et de documentation pédagogique, ici à Neuchâtel, l'IRDP, c'est souvent plus connu sous ce nom-là. Moi-même, j'ai fait des études de linguistique ici à Neuchâtel. J'ai travaillé sur le plurilinguisme, sur le français régional, sur d'autres questions aussi. J'ai aussi un peu travaillé sur le plurilinguisme en étant aussi à Bâle comme lecteur de français. Je crois que...
Très bien. Et venant d'un tout autre milieu, et qui nous apportera un regard double sur la question, François Berger, à qui je laisse aussi la parole.
Je vous remercie, madame. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs, chers amis. Chère madame, je ne vous cache pas que j'ai été quelque peu mise en difficulté lorsque vous m'avez aimablement proposé de m'associer à ce débat, pour la simple et bonne raison que je n'appartiens pas du tout à votre communauté scientifique. Deux personnes qui analysent la situation telle qu'elle vous a été présentée et telle que certains d'entre vous la connaissent. Donc je suis ici présent en néophyte. Sans pouvoir contribuer de beaucoup à la science linguistique ou à la science tout court, mais la question ou les questions qui sont posées, qui m'ont été posées, m'ont évidemment interpellé, mais n'attendez pas de moi des réponses certainement aussi rigoureuses que vous, madame, vous, mesdames, et vous, monsieur, pourrez les donner ici. Voilà, je vous remercie.
Alors, quand même, parce qu'il ne l'a pas dit, il est avocat et écrivain. Et vous ne l'avez non plus pas dit, vous êtes membre, vous présidez la commission littéraire du canton de Neuchâtel, vous êtes aussi membre de la Société des auteurs et autrices de Suisse, ainsi que de l'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens. Donc c'est pas rien, et il n'est pas totalement néophyte. Donc voilà, ça c'est aussi... Voilà. Voilà, mangez-vous le crouton ou le quignon? Cueillez-vous du cramia ou des dents de lion? Utilisez-vous un feune ou un sèche-cheveux? Federica Diemo, ces questions, vous les avez posées il y a une année au Suisse Roman, lors de la première enquête sur les Français parlés. Depuis, trois autres ont suivi, dont la dernière a été mise en ligne la semaine passée, consacrée notamment au germanisme. Alors, comment ces enquêtes ont été accueillies par le public et qu'est-ce qui est ressorti de ces enquêtes?
Tout d'abord, je dirais que ces enquêtes, donc, ont été, la première a été lancée en juin 2015, et ces enquêtes, il faut le dire, s'inscrivent dans une ligne de continuité avec des activités de recherche, des projets de recherche que le Centre de dialectologie et d'études du français régional mène depuis sa création, depuis les années 70. Donc on a, en fait, c'est dans cette ligne de continuité qu'on a voulu continuer à s'intéresser au français parlé en Suisse romande, mais avec des buts complémentaires par rapport justement aux travaux faits dans les années, à partir des années 70. Je rappelle que le dictionnaire suisse romand, ce best-seller que plusieurs connaissent, a été réalisé justement au centre sous la direction de l'ancien directeur Pierre Knecht et par André Thibault. Donc on s'inscrit dans une ligne de continuité, mais on a voulu justement s'intéresser à l'utilisation orale de ces tournures, de ces expressions, de ces mots dits régionaux. Et en particulier, notre but était de, par une enquête lancée sur Internet, toucher un public très large. Je rappelle que le dictionnaire suisse-romand a été réalisé sur des attestations écrites. On a dépouillé de la presse des attestations écrites, alors que nous, on voulait s'intéresser à l'usage oral, encore, de ces tournures, de ces locutions, de ces manières de dire, typiques ou moins de la Suisse romande. Donc, un but de continuité. Deux, complémentaires, plutôt à l'oral que les attestations écrites. Toucher un public large grâce aux médias, grâce à la possibilité de lancer des enquêtes en ligne qui peuvent toucher un public plus large. Et je dirais aussi, donc, le but, c'était de voir la vitalité de ces expressions. Et là aussi, plus que les mots, étant donné que les mots sont déjà bien traités dans le dictionnaire suisse-romand, dans la base de données qui a été mise en ligne et tout, on s'intéressait davantage à des expressions, des tournures qui avaient été moins ou peu étudiées. Je vais droit le faire, j'ai meilleur temps. Donc on a inséré ces tournures, ces expressions, ces locutions dans des petits contextes et on a demandé aux gens de nous dire s'ils les utilisent, avec quelle fréquence ou quoi. Donc le public, le succès a dépassé vraiment toutes nos attentes. Je pourrais dire on a plus qu'été déçus en bien.
Les trois premiers mois, c'était donc 10 000 personnes. Et aujourd'hui, vous en êtes à combien aujourd'hui?
Alors, la première enquête a dépassé, on est autour de 11 000 personnes. Je dis 11 000 personnes qui ont fait l'exercice jusqu'au bout, qui ont rempli les 60 questions qui nous ont fourni des centaines, des milliers, je dirais, de commentaires. Sur ça, je reviendrai. Ensuite, on a lancé une deuxième enquête en novembre 2015. Et là, on a dépassé les 6 000 personnes qui ont fait l'exercice jusqu'au fond, disons. Et puis là, c'est mon collègue Mathieu Avanti qui a lancé l'enquête sur les germanismes la semaine passée. L'intérêt donc de tester, de voir la vitalité de ces tournures et expressions qui ont été très peu ou presque jamais étudiées dans la littérature, on en sait peu. Donc, un, c'était ce but, et deux, c'était pour nous intéressant de voir la distribution de ces tournures. Est-ce que, voilà, avoir meilleur temps est utilisé dans toute la Suisse romande? Est-ce que je vais droit le faire? Tous les Suisses romands le disent, ou que les Vaudois, ou que les Neuchâtelois? Et puis, on a lancé ces enquêtes non seulement en Suisse, mais aussi, on l'a dit, dans les régions voisines, pour dépasser un peu le cliché ou les idées reçues comme quoi certaines tournures seraient que des helvétismes. On a bien, notre enquête commence à montrer que ce n'est pas le cas, qu'il y a des tournures, des expressions qui dépassent les frontières politiques suisses.
Et vous le démontrez au travers de cartes, hein, très concrètement.
Alors oui, justement, là, on a pu analyser, on a commencé à analyser certains résultats, et sur le site de l'Observatoire du français en Suisse romande, vous trouvez une série de cartes où justement on visualise, j'en ai là aussi sous la main, où on peut voilà, visualiser justement la distribution de ces tournures. Il veut pleuvoir. Est-ce que c'est plutôt les Vaudois qui l'utilisent, les Valaisans aussi, moins les Jurassiens, donc la couleur teintée, plus c'est teinté, plus indique la vitalité ou l'utilisation. Bon, quand je dis vitalité ou distribution, c'est d'après ce que ces gens qui ont eu vraiment la bonne volonté de remplir ce questionnaire et de nous donner leur utilisation. J'aimerais quand même bien préciser qu'on doit être très prudent. On est très content des résultats, évidemment, mais nos matériaux, évidemment, témoignent de ce que les gens nous disent de leur pratique linguistique, de ce qu'ils affichent comme utilisation ou non. Il faut quand même parfois prendre les choses avec un peu de recul. Mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est justement tous les commentaires que les gens ont mis. On laissait. Parce que chaque question, il y avait la possibilité de... Il y avait la case commentaire. Alors, pour... on s'intéressait, par exemple, à savoir si vous utilisez la tournure « il veut pleuvoir » à la place de « il va pleuvoir ». Alors, c'était extrêmement intéressant pour ce cas de figure, par exemple, de voir que beaucoup, beaucoup de gens nous ont corrigé en disant « très intéressant votre questionnaire, mais dis donc, il y a quand même pas mal de fautes, parce que vous avez mis « il veut pleuvoir », mais en fait, il faut dire « il va pleuvoir ». Pour nous, sociolinguistiquement, c'est extrêmement parlant, parce que ça signifie... Ou tous les commentaires, justement, liés à un usage particulier. « Oui, je l'utilise, mais que... » avec des amis, que dans un contexte de travail, ou sinon, oui, je l'ai entendu par mes grands-parents, mais je ne l'utilise plus. Donc on a aussi tous ces commentaires qui nous permettent maintenant de commencer à vraiment étudier ces matériaux de manière scientifique, approfondie, en utilisant les statistiques, et tester, par exemple, justement, est-ce que le critère âge a un impact ? Est-ce que certaines tournures sont en train de sortir d'usage ? J'ai ça vu, le ça qu'on appelle vaudois, semblerait, en tout cas d'après notre travail, en perte de vitesse. J'ai personne vu. Est-ce que vous le dites encore ? Pas ? Quelqu'un l'entend ? Voilà. Là, on a toute une série de commentaires aussi qui vont dans le sens, alors c'est plutôt une tournure vieillie ou pas. Donc le succès du public a été vraiment extraordinaire, non seulement dans le remplissage, mais surtout dans ces commentaires qui pour nous sont extrêmement importants, puisqu'il ne faut pas oublier que ces tournures ou ces expressions, ces mots, il faut les placer dans une situation, il faut les placer dans un contexte et savoir justement si on l'utilise dans telle et telle tournure ou pas.
Là, vous parlez essentiellement de la Suisse romande, mais ces enquêtes ont aussi été élargies en Europe, donc en France et en Belgique. Et il y a aussi ces cartes très intéressantes qui montrent en fait que certains mots qui sont utilisés en Suisse romande sont aussi utilisés en France ou en Belgique. Donc, parlez-nous des préjugés, de ce qu'a permis ces enquêtes.
Mais justement, il y a vraiment... Je pense que depuis... un certain nombre d'années, pas des décennies, hein, il y a un intérêt de plus en plus fort, un intérêt vers le français parlé et vers la variation linguistique en français, ce qui n'était pas le cas dans les années, encore dans les années 60. Hein. C'est un mouvement assez récent. Pour ça, il faut dire que la francophonie a un bon retard par rapport à d'autres régions linguistiques anglophones ou germanophones ou italophones où la variation linguistique a été l'objet d'études déjà il y a longtemps. Il y a cette idée, cette volonté de s'intéresser à l'oralité, aux expressions aussi qui sont utilisées justement dans le quotidien, aux expressions qui sont utilisées justement dans les différentes régions de la francophonie. Et donc ces enquêtes ont été lancées en même temps justement dans la France entière, en Belgique. Actuellement, il y a une enquête similaire qui est lancée aux Antilles pour voir justement la variation du français dans différentes régions de la francophonie. Donc je dirais que ces enquêtes s'inscrivent dans un mouvement beaucoup plus large qui s'intéresse à la variation du français, à l'utilisation à l'oral et à cette variation du français et dans différents contextes sociolinguistiques en francophonie.
Avant de passer la parole un peu plus loin, juste donner quelques exemples. On a par exemple dîner. Est-ce que c'est seulement propre aux Suisses romands? Voilà, est-ce qu'il y a un ou deux exemples pour montrer que ces mots voyagent au-delà des frontières?
Voilà.
En fait,
il y a des mots qui voyagent, il y a des mots qui restent. Des mots comme qui restent, c'est-à-dire c'est des mots qu'on appelle des maintiens du français d'autrefois. Dîner et déjeuner, comme on l'utilise, était utilisé aussi autrefois en français de référence ou de France, comme 70, 80 et 90. Donc ces mots, par exemple, c'est des mots qu'on appelle des mots. Certains l'appellent archaïque, mais j'aime plutôt des mots, on dit des phénomènes de maintien, des mots qui existaient dans le français de référence, dans le bon français, si vous voulez, mais qui sont sortis d'usage parce que certains spécialistes, grammairiens et autres, ont décidé qu'il fallait dire autrement, qu'au lieu de dire 80, c'était 80. Vas-y.
On y reviendra, mais il serait temps que les Français changent et commencent à parler de manière un peu logique.
Parce que là, il se pose la question, est-ce que 80, est-ce que c'est plus logique que 80 ? 90,
justement,
quand on dit 80, est-ce que... Voilà, mais tout à coup, on nous a dit, l'histoire du français nous enseigne que tout à coup, on a remplacé le 80, qui devait sortir de l'usage et qu'il ne fallait plus utiliser, et qu'il fallait dire 80. Et surtout 90, pas plus 90, mais 90. Alors, il faut encore m'expliquer quelle est la logique de cette... Est-ce que c'est plus facile de dire 90 que de dire 90? Donc, mais la Suisse romande, comme d'autres régions qu'on appelle périphériques de la francophonie, garde des mots qui existaient en français, dits de référence, mais pas seulement, donc garde des mots, comme on vient de le dire, mais aussi, et c'est ça, je crois, un aspect qui n'a pas assez été mis en avant, ces Français innovent aussi, inventent aussi des nouvelles tournures. Le « avoir meilleur temps », c'est une création suisse romande et des régions voisines, non seulement suisse romande, c'est un des mots qu'on pense est un helvétisme. On a créé, c'est surtout sur le avoir bon temps, sur la tournure avoir bon temps, qu'on a créé avoir meilleur temps. Donc il y a aussi des créations qui se font en Suisse romande comme partout dans la francophonie.
Et qui sont utilisées par les jeunes, comme vous l'avez dit le matin, aujourd'hui.
Voilà. Parce que l'enquête aussi, mais je pourrais en revenir, ce qui témoigne, c'est que certains mots sont très connotés ou très stigmatisés. Donc même le adieu comme formule de rencontre et tout, les commentaires, ah non, mais ça c'est vieux, il faut absolument, on le retrouve dans les SMS et dans les WhatsApp, hein, mais pas écrit adieu, écrit adieu. Donc, comme quoi, l'empreinte régionale est aussi dans les WhatsApp. Mais ce qui est davantage intéressant, c'est les expressions dont on n'est pas conscient. Je vais droit le faire. Les jeunes, on n'est pas conscient que c'est un régionalisme.
Peut-être justement par rapport aux jeunes, j'aimerais donner la parole à M. De Pietro parce que... Donc on voit hein, le français parlé, le parler roman est encore très vigousse, pour utiliser un terme de chez nous aussi. Il l'est aussi chez les jeunes, on le voit. Et comment est-ce que fait l'école avec ça? Est-ce qu'elle l'intègre? Est-ce qu'elle essaye de le gommer? Qu'est-ce qu'elle fait avec ce parler français, ce français parlé?
Évidemment, c'est le lieu un peu crucial de cette discussion, puisque c'est là que se transmettent certaines normes, hein, certaines manières de parler, et donc il y a une responsabilité de l'école. Donc il s'agit de voir d'une part comment, ce qui se fait aujourd'hui à l'école, et puis dans un deuxième temps aussi, on y viendra, ce qui pourrait et devrait se faire à l'école. Hein, c'est deux choses un peu différentes. Alors, pour revenir à ce que disait Federica, bien sûr, il y a une évolution depuis le 19e, depuis le 18e siècle, qui va dans le sens d'une ouverture. Hein. On avait beaucoup au 19e siècle des cacologies, hein, des listes de ce que les élèves ne devaient pas dire. Et parmi ces cacologies, il y avait beaucoup de choses qui portaient évidemment sur les mots régionaux, qu'a-t-elle, moindre, réponse, il est dehors. Je tire ça d'une nouvelle cacologie ou dictionnaire des locutions vicieuses à l'usage des écoles et des pensionnats, qui date de 1841. Donc c'est un vieux débat, hein, c'est un débat toujours ouvert à l'école, mais en fait c'est une vieille histoire. Hein. Bon, on constate qu'il y a une évolution, mais encore dans les années 70, hein, on a un enseignant dans l'ouvrage des actes du colloque de dialectologie franco-provençale, on a un enseignant qui est invité à donner son avis sur cette question et qui dit « Si l'on se place du point de vue du maître et de l'école, force nous est de reconnaître que nous ne devrions pas pouvoir accepter les régionalismes, quels qu'ils soient. Hein » Ceci dit, après, le même enseignant dit que clés d'art et des choses comme ça, on peut les tolérer puisqu'il n'existe rien d'équivalent français. Mais on voit bien que le débat reste présent. Alors, il y a tout de même une évolution indiscutable des normes. Et je crois que ce qu'il est important de dire ici, on va voir ce que disent maintenant les règlements, mais d'abord, ce qu'il faut constater, c'est que si le français n'est pas véritablement, le français régional n'est pas vraiment objet d'enseignement, n'est pas vraiment explicitement présent dans l'école, il est implicitement présent. Il est très présent parce que les enseignants et les élèves l'utilisent sans le savoir. Aucun enseignant va reprendre un élève qui dit non, non. Ce n'est pas possible. Ça ne passerait pas, hein, d'ailleurs. Donc, le français est très présent, le français régional est très présent, mais de manière implicite, de manière inconsciente. Alors, qu'en est-il maintenant au niveau plus conscient, au niveau des règlements ? Et pour ça, j'ai été voir un tout petit peu le nouveau plan d'études, évidemment, le plan d'études roman dont vous avez certainement entendu parler, le PER, comme on l'appelle le plus souvent. Alors, premier constat, quand on regarde le plan d'études pour les langues, parce qu'il y a un domaine langue maintenant, le français est intégré dans un grand domaine langue, ce qu'on constate, c'est que le terme de français régional n'apparaît pas. Voilà. On ne parle pas du français régional.
Juste une précision, quand vous parlez français régional, on parle bien du français parlé. Hein, donc on n'est pas dans cette approche du français régional en France avec les dialectes.
Ah oui, alors,
on est bien d'accord.
Peut-être qu'une précision terminologique doit être faite, hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible. Donc on parle de langue régionale quand on parle du corse ou du breton, qui sont des autres langues que le français. On parle de variété dialectale ou de dialecte, mais tu saurais mieux le dire que moi, tu me reprends si je ne suis pas assez précis. On parle de dialecte quand on a des variétés à l'intérieur d'une même souche, disons, linguistique, relativement, on est à la limite de l'intercompréhension. On va parler de patois quand ces dialectes ont une aire de diffusion plus restreinte, hein, je crois qu'on peut distinguer comme ça, et on va parler de français régional quand c'est du français, très clairement, mais avec un certain nombre d'écarts par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme la norme standard. Souvent, on pense au français de Paris ou au français de Tours. Hein. Donc là, on parle bien du français régional de Suisse, c'est-à-dire c'est bien du français, mais qui présente un certain nombre d'écarts lexicaux, syntaxiques, phonologiques par rapport à ce français standard. Ça, c'est OK. Donc, je parle ici du français régional. Il n'en est pas question dans le PER. Toutefois, et c'est là que ça devient important, le PER ne l'exclut pas du tout. C'est-à-dire qu'il fournit un cadre pour l'enseignement des langues qui permet de faire une place aux variétés du français, à toutes les variétés de langues, aussi au plurilinguisme, et l'importance très grande donnée au plurilinguisme. Et là, je me permets, je vais faire une deux citations, parce que je crois que là, il est important de citer les textes. Mais d'abord, il est dit que le domaine langue développe quatre grandes finalités. Apprendre à communiquer et communiquer. Donc là, bon, c'est l'accent mis sur la pratique de la langue. Ensuite, maîtriser le fonctionnement des langues, réfléchir sur les langues. Donc c'est toute une dimension réflexive. Ensuite, construire des références culturelles. Donc il s'agit de s'inscrire dans une histoire de la langue, etc. Et développer des attitudes positives face aux langues et à leur apprentissage. Et je lis, il s'agit ainsi pour les élèves, lorsqu'ils se trouvent en situation de communication, d'utiliser la langue dans le respect des règles et des normes correspondant à cette situation. Et cette phrase est tout à fait importante. C'est-à-dire qu'il s'agit de parler comme il est, comme on est invité à parler dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc si je me trouve ici, en tout cas, je vais utiliser le français d'ici. Hein? De même que les Antillais vont utiliser le français des Antilles. Hein? Donc je crois que cette phrase est tout à fait importante. Donc il fait une place à ces réflexions sans pour autant mentionner directement le français régional. De même, on lit que étudier le fonctionnement des langues et réfléchir à leur sujet, c'est permettre aux élèves de s'approprier les outils nécessaires afin de maîtriser les bases des différentes langues qui permettent d'utiliser la langue de manière adéquate dans les situations de communication auxquelles les élèves sont confrontés. Et il s'agit aussi d'observer les règles de fonctionnement de la langue française et des autres langues étudiées dans le but de mieux percevoir les similitudes et les différences et d'établir des liens entre apprentissage des langues étrangères et du français pour les élèves allophones, liens avec leur langue maternelle. Donc on peut aussi penser pour les élèves romands, lien avec leur langue maternelle, qu'est le français de Suisse romande. Hein, donc vous voyez que toutes ces citations nous montrent qu'il y a dans le plan d'études roman une place pour le français régional, même si celui-ci n'est pas explicitement mentionné.
Alors il y a une place, mais en même temps, il y a quand même, c'est un peu ambigu, hein, parce qu'il y a une place, il y a une certaine fierté par rapport à ce français parlé, ce français régional. Mais en même temps, il y a une sorte de sentiment d'infériorité. Il y a un véritable problème par rapport au bon français. On revient toujours à ce bon français entre guillemets. Hein, donc,
Oui. Alors, là, ce sentiment d'infériorité a été bien documenté hein, dans plusieurs études, plutôt des études sociolinguistiques d'ailleurs, qui ont travaillé sur la perception que les Vaudois ont de leur parler, par exemple, etc. Selon une méthode, je la cite parce que c'est une méthode tout à fait amusante et très performante, hein, je trouve, que ce qu'on appelle « matching guys », les voix déguisées, si vous voulez, c'est-à-dire que les Vaudois, on leur a soumis un certain nombre d'enregistrements et puis ils devaient dire si les personnes qui parlaient leur paraissait plutôt sympathique, plutôt intelligente, plutôt riche, plutôt, vous voyez. Et la question, c'est est-ce que, d'après la manière dont une personne parle, on peut dire quelque chose de cette personne? Pour ça, c'est l'enquête. On fonctionne tous un petit peu comme ça, hein, je pense. Où ça devient très subtil, et l'enquête est très intelligente, vous allez le voir, c'est que c'est les mêmes personnes qui sont enregistrées deux fois. Mais une fois, en parlant avec leur accent, vaudois en l'occurrence, et une fois en annulant cet accent et en parlant à la parisienne, si vous voulez. L'enquête a d'abord été initiée au Québec, hein, c'est les Québécois qui ont inventé cette méthode, et ils comparaient les mêmes locuteurs parlant une fois anglais et parlant une fois français, dans les années 60. Alors, dans les années 60 au Québec, ça a montré très clairement que quand les mêmes gens, hein, donc vous comprenez bien, c'est les mêmes personnes. Quand elles parlent le français, elles sont sympathiques, jolies, agréables, mais pas riches, pas très intelligentes, etc. Et on a les mêmes résultats dans le canton de Vaud. Hein, à peu près. Hein, je simplifie assez grandement, mais on a des résultats assez proches. Alors, pour revenir à l'école, je ne vais pas allonger trop, mais je crois que ça valait la peine de citer un peu ces méthodes pour faire sortir ces attitudes. Alors, il est important, et j'ai parlé de références culturelles, d'attitudes face aux langues. L'école doit non seulement enseigner à communiquer, mais elle doit développer avec, chez les élèves un rapport au langage. Et c'est là qu'on peut développer des activités qui vont rendre les élèves plus fiers de leur langue, plus confiants de leur langue. Ce qui ne veut pas dire nécessairement enseigner les régionalismes. Et j'y reviendrai quand je dirai un petit peu comment je vois ce qu'on pourrait, ce qu'on devrait faire à l'école. J'espère que j'aurai encore quelques minutes pour cela.
Voilà, merci. François Berger, vous, par rapport à cette vitalité des Français parlés, quel regard portez-vous là-dessus aujourd'hui ? Quel impact ces Français parlés, est-ce qu'on les retrouve dans la littérature ? Dans votre métier d'avocat aussi, comment faites-vous ? J'aimerais bien avoir ce double regard, cette double approche, un peu différente aussi.
Oui, tout à fait. Votre question, d'ailleurs, est très pertinente. Je l'ai sous les yeux en tant qu'avocat. Quel regard portez-vous sur le français parlé ? Alors, il faut évidemment faire la distinction entre l'éventuelle influence du français parlé dans le monde juridique ou judiciaire et puis dans le monde fictif ou le monde de la fiction ou le monde littéraire. Alors, il est évident que sur le plan juridique, la question, elle est assez, on y répond assez aisément. Pourquoi ? Parce que le monde juridique, le monde de l'écrit juridique, est assez peu perméable au langage parlé. Et vous pouvez en trouver des exemples très, très nombreux. Si vous prenez, par exemple, et ça m'est arrivé un peu par hasard en rangeant des vieux bouquins dans ma bibliothèque de droit, de tomber sur un jugement d'il y a une centaine d'années, vous voyez. Et j'étais frappé de voir, c'était aussi en pensant à notre débat de ce soir, alors je me suis amusé à lire ce jugement, et je me suis rendu compte, au fond, que le jugement rendu il y a environ 100 ans, par le tribunal, oui, je crois que c'était le tribunal fédéral, ou la cour d'appel de Berne, enfin une instance cantonale supérieure ou fédérale, que le langage écrit du jugement est très semblable au langage écrit des jugements d'aujourd'hui. Donc c'est très stable, le langage juridique. Alors, je reviens à la question évidemment centrale, quelle est l'influence du langage parlé dans le monde juridique ? Alors, je dirais qu'au niveau du jugement, il est extrêmement faible, voire inexistant, puisque finalement, les parois sont étanches entre l'expression juridique écrite, les jugements, les sentences, les décisions, et puis le langage des personnes qui, évidemment, évolue ou tient compte d'un certain nombre de termes locaux, régionaux, régionalisme et autres. Alors on dira, mais est-ce que ça a quand même une influence ? Alors je ne dirais pas que ça n'en a aucune. Il faut bien distinguer les choses. Quant au jugement, non, le jugement, lui, reste très stable dans sa formulation, jugement d'aujourd'hui ou du passé, peu de changement. Même si on prend un jugement d'il y a 200 ans, c'est un peu plus emphatique, je dirais. Hein ? Mais au niveau du langage en lui-même, peu, voire pas de place dans le jugement lui-même, à l'expression, à l'écrit, que ce soit régional ou autre. Par contre, il est évident que cela pourra avoir de l'influence ou de l'importance. Dans quel sens ? Dans le sens où, pendant une enquête judiciaire sur laquelle le tribunal va se fonder pour rendre son verdict ou rendre son jugement, il devra être aussi près que possible de ce que vont dire les gens. Alors, il est évident que les PV, les procès-verbaux d'audition, que ce soit sur le plan civil ou que ce soit sur le plan pénal ou sur le plan administratif, ça dépend, vous me direz, beaucoup des magistrats. Mais les magistrats les plus consciencieux évitent toute interprétation de langage, c'est-à-dire qu'ils transposent, dans le cadre du procès-verbal, les termes tels qu'ils sont dits ou utilisés par le témoin, l'expert ou les parties. Vous voyez ? Donc, là, une influence peut évidemment exister, c'est clair, parce qu'ensuite, il faudra interpréter quel est le sens qui a été donné par telle parole, par telle expression, par telle déposition, par tel témoin ou tel expert. Alors là, il y a une place, bien sûr, dans le fonctionnement judiciaire et dans la préparation du jugement au langage parlé, quel qu'il soit, qu'il appartienne à un régionalisme ou que ce soit la langue traditionnelle ou la langue classique. Là, il y a une influence qui peut se faire.
François Berger, en fait, ce qui m'intéressait, on en avait parlé aussi assez longuement, c'était de dire que vous aviez vu émerger dans la littérature de nombreux nouveaux mots qui pouvaient être issus de ces régionalismes, mais encore d'autres, d'autres courants, et que ça n'avait pas de place dans le cadre de la justice, des textes de loi, parce que cela devait perdurer, en fait. Il y avait aussi cette notion-là de durée. Un texte devait pouvoir rester compréhensible avec cette... On pouvait pouvoir comprendre un mot... Aujourd'hui, comme dans 30 ans, en fait. C'était ça qui était...
Oui, parce que la visée n'est pas la même, n'est-ce pas ? L'auteur, le romancier, cherche à exprimer une idée, une histoire, en fonction d'un style qui lui est propre. Il s'adresse à un certain nombre de personnes. Le fonctionnement de la justice n'a pas la même finalité. Il s'agit d'être compris par le plus grand nombre... Et surtout, le but, c'est-à-dire de dire le droit et de rendre la justice, n'est absolument pas le même. Le but est aux antipodes de la fiction. Donc ça explique aussi ce souci de cohérence et de clarté qui est propre au langage juridique. Mais ce que je dis là n'est pas seulement valable sur le plan des jugements ou des sentences. Je ne veux pas vous faire ici un cours d'introduction au droit, mais j'entends si vous prenez, par exemple, les contrats. Les contrats les plus usuels de la vie quotidienne de tout le monde. Le bail, le prêt, le contrat de vente. Bien, ces contrats-là sont quasiment les mêmes dans leur fondement, je veux dire dans leur base, que ceux des Romains. Si vous prenez un texte de Ulpien ou de Justinien et vous ouvrez en comparaison... Le code des obligations, vous apercevrez que les premiers articles sont quasiment identiques. Alors évidemment, on a développé ensuite d'autres notions dans le cadre du contrat de vente ou d'autres. Bref, mais j'entends, c'est extrêmement stable, j'entends. Par contre, maintenant, sur le plan du langage parlé, sur le plan de la littérature, évidemment, la question est tout à fait différente. On sait que les auteurs s'emparent du langage parlé.
Mais je crois et vous en pensez quoi quand ils s'en emparent, quand ils l'intègrent en littérature? Pour vous, est-ce que ça reste du bon français ou c'est un effet de style?
La question est délicate.
Oui,
la question
ça.
Est délicate parce qu'on peut penser, lorsqu'on prend... Je sais pas, prenons un exemple célébrissime. C'est l'exemple de Céline, n'est-ce pas? L'exemple de Céline, on peut se dire, c'est un langage parlé. Du moins, c'est ce à quoi on peut penser dans une première lecture. Et finalement, si on décortique, on s'aperçoit que ce n'est pas un langage parlé. C'est le langage de Céline, qui est un immense styliste du XXe siècle. Ce n'est pas un langage parlé. Donc, il s'agit d'être extrêmement prudent. On peut se dire, voilà, il y a un langage parlé. Est-ce que c'est vraiment le langage parlé? Alors, moi, je dirais ceci. Au risque de prendre une conclusion un peu hâtive et certainement sujette à caution, la place du langage parlé dans la littérature est faible. Alors qu'il y ait un intérêt et que les auteurs s'en emparent et ensuite, à leur façon, modèlent ou modifient leur langage parlé, ça, j'y crois beaucoup plus. Je crois beaucoup plus à un travail qui est refait par les auteurs en fonction d'un langage parlé. Mais le langage parlé brut, oui, on peut citer beaucoup d'exemples. Il y a des locutions propres à des patois, propres à des langues, à des régionalismes. Je me viens en tête en ce moment, c'est un roman très ancien d'un ancien juge fédéral qui était écrivain aussi, un nom des moindres, mais assez peu connu comme auteur. Il s'agit de Virgile Rossel, qui est un des pères du Code civil suisse, mort il y a bien, bien longtemps. Et je me souviens d'une expression où un personnage féminin, tout à coup, dit « monter, monter », sauf erreur, ça veut dire « mon Dieu », je crois. C'est une expression. Donc, voilà un exemple d'un auteur jurassien de Suisse romande, qui lui-même avait été sensible à certains régionalismes et les avait intégrés dans son... dans ce roman-là, dont je ne sais plus le titre. Voyez. Alors, on peut trouver dans la littérature de Suisse française, je n'aime pas tellement l'expression Suisse romande, que ça veut dire, littérature de Suisse romande. Il y a une littérature française en Suisse romande, en Bretagne, en Corse. Enfin, littérature de Suisse romande. Enfin, ça, c'est une idée tout à fait personnelle, j'entends. Bon. Voilà. Donc, il y a certainement un intérêt chez les auteurs pour le langage parlé, mais attention, toujours se dire, ils vont, et la plupart du temps, c'est ce qu'ils font, le retravailler pour l'intégrer à leur propre style. Alors, il y a l'exemple de Céline, mais il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut également donner. On a d'ailleurs parlé à une époque, vous en souvenez certainement, de ce roman célèbre, c'était un ancien bagnard, Henri Charrière, qui s'était évadé du bagne de Cayenne et qui a publié un bouquin qui a eu un très grand succès, c'est dans les années 70, je crois, qui s'appelle Papillon. On en a fait un film, il est redonné à la télévision assez régulièrement. Et je me souviens qu'un critique disait très justement, voilà l'expression d'une littérature orale. Mais voyez, il a été assez prudent, le journaliste. Hein. Au fond, à mon avis, il a bien compris. Bien sûr que c'est assez cru, ça s'est voulu très près des cahiers. Vous savez qu'à l'origine, donc, Papillon avait des carnets, des cahiers. Bon, c'est Gallimard, je crois, qui avait publié. Ça a certainement été revu, remanié, mais on a voulu être le plus près possible quand même de l'émotion et du style de Papillon. Alors là, on parlait effectivement d'une littérature orale, c'est-à-dire proche du langage parlé. On n'a pas parlé de littérature parlée. Hein, j'ai jamais entendu l'expression. Alors on parle parfois de littérature orale, proche de l'oralité, mais pas de littérature parlée. Donc l'influence du parler, oui, mais attention, quand on dit où on lit ce livre, c'est comme les gens parlent. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est l'impression et l'illusion d'optique ou l'illusion littéraire que c'est donné ou créé l'auteur.
Alors, il n'y a pas l'histoire d'une littérature parler, en fait, c'est plutôt des termes, des expressions qui sont intégrées dans le cadre de la littérature. Et c'est important que je dise, parce que par rapport à ça, j'aimerais venir à la définition de ce qu'est-ce que le bon français, finalement, pour vous, en tant qu'écrivain ou en tant qu'avocat, quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que ce français parlé, est-ce que Crouton, si moi je dis Crouton ou je parle d'un Quignon, est-ce que je suis toujours dans cette norme française ou est-ce que j'en suis loin et qu'il faudrait à un moment donné pouvoir... Quel est votre regard là-dessus?
Oui, alors deux choses. Le bon français, d'abord sur le plan juridique, c'est évidemment la décision ou la norme de droit qui est la plus claire. Ça me paraît évident, en tout cas pour moi. C'est là qu'on peut parler d'une qualité ou d'un bon français, encore que le terme, je le mettrais entre guillemets, qui, quand même, par sa clarté, se donne, se fait compréhension, se fait compréhensible. Sur le plan littéraire, la question est beaucoup plus délicate, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le bon français aujourd'hui? N'est-ce pas? On est quand même dans un chaos monde. On n'est plus à une époque où il y avait des références quand même un peu solennelles, n'est-ce pas? Il était courant de dire au XIXe siècle que ce qui était un exemple de bon français écrit, c'était évidemment la langue de Chateaubriand. Ou les gens qui avaient une expression parfaite en sachant utiliser tous les temps et ne faisant jamais d'erreur au niveau de la concordance des temps. C'est quand même un peu passé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je pense qu'on est peut-être à la recherche de critères. Est-ce que j'en ai moi-même? Est-ce que je peux définir ce qu'est le bon français? Oui, bien sûr que je suis soucieux d'un respect des règles de la grammaire, de la syntaxe, mais pas de manière excessive. Je suis sensible aussi à certaines inventions, à certaines libertés qu'on peut prendre avec le langage. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, si par exemple vous utilisez un subjonctif présent plutôt qu'un subjonctif imparfait, bon, je ne pense pas qu'on va vous déclarer la guerre, n'est-ce pas? C'est ça. Alors la question du bon français, pour moi, c'est évidemment un langage autant écrit... chorale qui se donne à la compréhension, bien sûr. mais qui n'exclut pas une certaine liberté. C'est-à-dire pas un langage qui soit écrit ou oral, qui soit absolument figé. Bien sûr qu'aujourd'hui, on voit très bien les SMS, je lisais l'entretien dans divers journaux et autres sur le langage d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un mal ? En tout cas, ça pose la question d'une redéfinition du langage, il y a une réinterpellation qui se fait. Est-ce que c'est à rejeter ? Non, je ne pense pas. Ça ne veut pas dire que j'écris comme les jeunes dans leur SMS, mais je ne dis pas, excusez-moi d'être vulgaire, c'est de la connerie. Ça m'interpelle. Je me rends compte que... Parce que finalement, sous le langage, quel qu'il soit, écrit ou oral, sous ce que nous, les termes que nous utilisons, nos expressions, notre façon de parler, les lettres que nous écrivons, enfin c'est plutôt des SMS ou des mails et des courriels maintenant, il y a tout un contenu émotionnel, tout un contenu de civilisation. Et moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est que sous le langage, si le langage change, c'est qu'il y a quelque chose qui est dessous. Ce n'est pas le langage pour le langage, c'est que quelque chose change. Et puis le langage est le reflet d'un changement important. Où va-t-il ? Moi, je ne sais pas. Je devine ou je pressens qu'il y a des modifications probablement très importantes qui sont en train de se faire. Et le langage est une réaction par rapport à quelque chose qui bouge, n'est-ce pas, dans partout. Alors, c'est pas propre au français hein, seulement.
Alors on va y revenir, ça sera par rapport à l'avenir du français, justement. Mais monsieur De Pietro, j'ai vu que vous vouliez réagir aux propos de monsieur Berger.
Ce n'est pas une réaction directement au propos, mais pour quand même relever qu'il y a encore un certain conflit sur ce que c'est le bon français et surtout à qui il appartient. Il avait été relevé, je ne sais plus où, qu'est-ce qu'un écrivain francophone ? Eh bien, un écrivain francophone, vous en êtes un ?
Oui. Mais qu'est-ce que c'est qu'un francophone ?
Oui, mais...
Il y a encore ça. Que...
Non, mais j'ai une réponse. Mais... Personne ne donne la réponse. Un écrivain francophone, très précisément, c'est un écrivain qui écrit en français, mais qui n'est pas français.
Alors, là, j'ai votre réaction, peut-être.
Oui, vous êtes sûr ?
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien
oui,
entendu.
Oui. Non. C'est une boutade, c'est un peu une boutade. Oui.
On a un peu des locataires de la langue française, quand même, les romans.
Oui.
Parfois.
Oui.
Oui. Tout à fait. Et puis, je rebondis sur ce que Jean-François vient de dire. Déjà, il y a un gros débat qui peut peut-être surprendre, mais un débat très actuel au sein notamment de l'Organisation internationale de la francophonie qui se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un francophone ? Qui peut se dire francophone ? Est-ce que pour être francophone dans la francophonie, il faut maîtriser parfaitement l'oral et l'écrit. Est-ce que
parce que c'est bien différent, hein, on est
justement,
d'accord.
Justement, hein, on a bien dit qu'on venait sur la question oral, écrit et tout. Est-ce qu'il faut maîtriser de manière vraiment appropriée, puis où on met la limite de l'acceptable, correct et tout. Là encore, il y a toute la question des normes, quelles normes et qui peut se dire francophone? Alors, est-ce que les millions de francophones africains, certains maîtrisent parfaitement le français comme tous ceux qui ont une scolarisation et autre chose, une formation et tout, mais ceux qui le maîtrisent de manière seulement à l'oral et qui ont une scolarisation très réduite et tout, peuvent se dire francophones comme nous les francophones d'adoption ou pas ou... C'est des questions vraiment encore ouverte.
Aussi des questions liées au bon français. À nouveau, difficile à définir. Pourtant, chacun de nous dans la salle, d'où qu'ils viennent, a un peu une naissance de ce bon français et va adapter son français en fonction du milieu dans lequel il se trouve et de ses interlocuteurs. Ça aussi, vous l'avez vu, Federica Diemo, dans le cadre de vos études. Hein. Oui. Il y a vraiment cette notion très forte de « je m'adapte et je change mon français ».
Bien sûr, je m'adapte, justement. Mais là, en tout cas, d'après les enquêtes, mais d'autres travaux aussi qui ont été faits, on voit très bien qu'il peut y avoir deux tendances qui peuvent apparaître vraiment contradictoires, mais qui en réalité ne le sont pas. Alors, est-ce que je veux, par exemple, par rapport à des régionalismes, des mots typiques et tout, est-ce que je veux les utiliser et je veux même en rajouter, en utiliser beaucoup, parce que j'ai en face de moi un interlocuteur, je rentre, vous rentrez chez vous au Jura et vous en profitez pour en rajouter, utiliser beaucoup. Mais par contre, si vous avez une séance à Lausanne avec voilà, une direction, est-ce que vous n'êtes pas tenté d'éliminer, d'effacer ces marques régionales et tout? Donc on a vu très bien que les gens, évidemment, s'adaptent. Et puis, je voulais encore rebondir sur la question normes orales et écrites. Bien sûr qu'on s'adapte à l'oral, mais je pense que pour le français, et qu'on pense de quelles normes on a et tout, pour le français, et le français constitue vraiment une exception parmi beaucoup de langues du monde, on a une conception de la norme, correcte, comme la norme écrite. On a pensé pendant des siècles que le bon français, et ça c'est les études, voilà, les études qui l'ont montré et tout, que le bon français, c'est le français écrit qui serait, et là on a toute une série d'études qui le témoignent, le français écrit est correct, est rationnel, et vous voyez, il y a toute une série d'adjectifs qui le dénotent et tout, et qui marquent que, qui est stable, il y a la question de la stabilité, d'une durée, et surtout d'un rationnel qui n'appartiendrait pas du tout à l'oral. Alors l'oral, c'est la déformation de l'écrit, c'est ce qui s'éloigne, c'est pas correct, c'est trop instable, c'est hétérogène. Donc il y a eu pendant longtemps cette dichotomie oral-écrit qui a encore des conséquences actuellement sur la vision qu'on a du français. Donc en sociolinguistique, ma discipline, c'est vrai qu'on a depuis quelques décennies, mais c'est récent, une ouverture vers ce débat oral-écrit, et on va plutôt vers une continuité et des échanges entre oral et écrit qu'une opposition nette entre l'oral et l'écrit.
Je voudrais juste ajouter à ce que dit madame, qui est fort intéressant. Ce qui va dans votre sens, en vous écoutant, je pensais à l'académie, c'est l'importance de l'académie. La France n'est pas le seul pays à avoir une académie, hein, vous le savez. Mais le rôle de l'académie française par rapport aux autres académies, par exemple à l'académie espagnole, est retentissant. Il est extrêmement important. Il y a vraiment un côté très réglementaire, très strict. Ils en sont à la 9e édition, ils sont à la lettre R, je crois, maintenant. Mais il faut 80 ans pour sortir un dictionnaire de l'Académie. Ils en sont à la 9e édition. Alors on voit, mais ce n'est pas que l'Académie et son dictionnaire qui montrent l'importance, effectivement, comme vous dites, de l'écrit. C'est aussi tout l'intérêt des grammairiens en France. On en parle un peu moins maintenant, il est vrai. Mais disons, ça montre effectivement à quel point on attache de l'importance au français écrit en tant que bon français. C'est-à-dire respectueux des règles qui sont définies ou des définitions qui sont données par l'Académie française des termes. Voilà.
Alors, je m'excuse, le temps passe très vite. Il faudra bientôt laisser un peu la parole au public, mais j'aimerais quand même rebondir sur ce que vous venez de dire, Madame Diemos et puis Monsieur Berger. Pour revenir à l'école, en fait, à cette norme écrite, comment est-ce qu'on enseigne ce bon français écrit à des jeunes qui sont confrontés à de multiples courants et qui viennent de cultures multiples? Comment est-ce qu'on fait passer le message? Comment on rend légitime ces règles?
Oui, alors ça revient à la discussion d'avant. Effectivement, la question est celle de la norme, du bon français. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut l'admettre et le poser clairement, l'école, d'une certaine manière, est normative, puisqu'elle est là pour faire en sorte que les élèves puissent s'intégrer dans une société, puissent être socialisés. Et être socialisé, c'est acquérir un certain nombre de normes. Mais on peut en revanche considérer que dans le monde francophone, il y a une surestimation du poids de la norme écrite. Et toutes les études, effectivement, le montrent. Il y a une confusion totale entre langue et orthographe, entre langue et écrit, etc. Comme si on ne savait pas le français parce qu'on faisait des fautes d'orthographe, alors que c'est des choses totalement différentes. C'est des choses différentes. Et donc là, l'école a un travail important à faire, mais qui est celui de la qualité de la langue en général, dans une perspective normative, et que ce soit pour l'écrit ou pour l'oral. Et de ce point de vue-là, donc, je me reconnais tout à fait dans ce que j'ai présenté du nouveau plan d'études, c'est qu'il y a deux rôles pour l'école. D'une part, donner aux élèves les outils pour qu'ils puissent s'adapter aux diverses situations de communication, écrites ou orales, en adaptant leur langage à cette situation. Puis deuxième mission, les conscientiser, développer leur réflexion pour qu'ils soient bien dans leur langue. Et puis c'est ça que j'aurais souhaité dire très rapidement, mais en deux mots sur ce qu'on peut faire, ce qu'elle fait déjà en partie. On ne sait pas toujours si c'est suffisamment mis en œuvre dans les classes, mais il se fait un certain nombre de choses. Et je vais donner deux exemples. Le premier, c'est pour la manière dont on enseigne le français aujourd'hui. On a l'impression que ce qui est important, finalement, c'est d'apprendre aux élèves à écrire et à parler, mais c'est-à-dire à produire des textes oraux ou écrits, à s'insérer dans des situations de communication. Et pour ça, on a une collection qui s'appelle « S'exprimer en français ». Ce qu'on va travailler, ce n'est pas des phrases, voyez, mais c'est des textes. Hein. C'est donc, et on va travailler ça dans le cadre de genres de textes, c'est-à-dire le genre administratif, le genre littéraire, le genre, le débat à l'oral. Et puis, par exemple, donc, on ne va pas nécessairement, je l'ai dit, enseigner le français régional, mais par exemple, il y a une de ces séquences qui porte sur apprendre à interviewer, à mener un entretien. Et pour faire cela, ben, les élèves sont invités à aller faire des entretiens. D'abord, ils écoutent des entretiens, ils lisent des entretiens pour voir comment c'est fabriqué, comment on relance, comme dans un débat, comment on relance les interlocuteurs, etc. Mais pour aussi intégrer le français régional sans l'enseigner nécessairement, l'entretien, ben, c'est justement d'aller parler avec des gens de leur rapport au français régional. Donc, on interviewe des gens sur les mots qu'ils utilisent du français régional. Donc, vous voyez, on fait en quelque sorte d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on apprend aux élèves à interviewer, à mener un entretien, mais en même temps, on leur donne un certain nombre d'informations, ils recueillent des informations sur le français régional, etc. Donc, voilà, c'est toute une manière de travailler. On peut aussi débattre de choses de ce genre, etc. Débattre du français régional en classe. On va développer les capacités de débattre des élèves, mais on pourra débattre sur, par exemple, faut-il accepter les SMS à l'école, etc. Et on va être amené à parler de la langue. La deuxième manière de faire, c'est justement de développer des activités réflexives qui travaillent alors, sur la diversité des langues, et notamment sur le français régional, voire sur les patois. Donc, ce n'est pas des activités où on enseigne la langue, mais c'est des activités où on réfléchit, où on compare. Je vous ai dit qu'il fallait amener les élèves à mieux comprendre en comparant. Eh bien, on a développé en Suisse romande une méthode qui s'appelle éducation et ouverture aux langues à l'école, où on trouve des activités qui travaillent avec plusieurs langues. Il y a 80 langues dans ces ouvrages. Et les élèves travaillent avec ces langues. Ils travaillent avec du chinois pour travailler les systèmes d'écriture, travaillent avec le braille pour voir comment fonctionne le braille, travaillent avec la langue des signes. Mais ils travaillent aussi avec le français régional. Et ils travaillent même aussi avec les patois, parce qu'il nous a été demandé un complément à cette méthode sur les patois. On ne va pas enseigner les patois à tous les élèves de Suisse romande. Ça n'aurait pas de sens. Par contre, on va les faire réfléchir à ces questions à travers des activités réflexives. Alors, on devrait encore aller plus loin. On pourrait travailler aujourd'hui sur les SMS, par exemple. Il ne s'agit pas d'enseigner à faire des SMS. Les élèves se débrouillent très bien sans nous pour cela. Mais il y a beaucoup à réfléchir sur les SMS. Ils nous apprennent, tu serais mieux placé à nouveau que moi pour en parler, mais comment fonctionnent les SMS ? Les élèves sont extrêmement habiles. Ils analysent la sonorité des mots pour les retranscrire dans les SMS, etc. Donc, il y a tout un savoir qu'il serait intéressant d'exploiter pour mieux le différencier après de ce qu'on pourrait considérer comme le bon écrit, quoi. Hein ? Voilà, c'est des exemples, mais d'activités, voyez, d'un autre type qui permettent de prendre en compte ces choses-là et de sensibiliser les élèves à ces variétés, à toutes ces variétés du monde, hein, je dirais, et à ce qu'ils se sentent mieux dans leur langue.
Voilà, donc ça peut être une belle conclusion pour ce tour de table. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public par rapport à cette thématique ? Alors, monsieur, je vais... Je viens. Voilà.
Merci. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, en fait, on parlait en Suisse de Genève à Pfin, le gallo-romain du temps des Romains. Et c'est que quand les Allemands ont envahi la Suisse au 7e siècle, qu'on a commencé à parler allemand dans les campagnes. Et à partir de l'an 1000, à peu près, dans les villes également. Le comte Rodolphe de Neuchâtel, qui venait de Fénice, hein, donc Vinels, il était un Minnesänger, il a écrit en allemand ici à Neuchâtel. Et au XVIe siècle, Farel a imposé le vrai français aux élèves à l'école qui parlaient une sorte de dialecte neuchâtelois. Il a interdit ce dialecte. Maintenant, concernant certains mots, comme vous avez parlé du clédard, ça c'est un mot d'origine celtique, typique, comme la bagnole, par exemple, qui vient de Benna, n'est-ce pas ? Et il y a des mots comme cramé, par exemple, ça vient directement du latin, cremare, n'est-ce pas ? L'autre jour, j'étais à la gare, la dame qui m'a vendu le billet a demandé à une dame, « Vous attendez sur moi ?» Ça, c'est un germanisme, donc ça, on doit aux Allemands. Donc, pour dire qu'on n'est pas locataire des Français, ici, on est chez nous.
Voilà le français qui est sujet à de nombreux courants, hein, on le voit. Donc, oui.
Et par rapport justement d'un point de vue historique et tout, mais évidemment que le parler neuchâtelois que vous avez évoqué, qu'on appelle les patois couramment ou les parlers franco-provençaux, hein, scientifiquement, mais on les appelle couramment les patois, bien sûr qu'ils laissent encore de nos jours des traces dans les variétés de français suisse-romand. Donc, la gouille, c'est un mot de français régional qui vient des patois, de ces langues historiques utilisées en Suisse-Romande, jusqu'au début du 19e siècle, quand même. Hein, et même, Neuchâtel, les derniers locuteurs de patois franco-provençal ont été enregistrés en 1907. Donc, c'est encore de l'histoire récente, très récente.
J'étais juste à préciser, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que je ne considère pas moi que nous sommes locataires de la langue. Hein. Je dis que certains considèrent que nous sommes que locataires de la langue, que nous ne sommes que locataires de la langue.
Madame.
Oui, merci à tout le monde pour ce débat très intéressant. Moi, je m'intéresse en tant que jurassienne d'origine simplement à la question toute bête. Vous avez dans la présentation, on parle de discrimination du français, enfin de Suisse romande par rapport au français. Mais moi, ce qui m'interpelle plus, c'est par rapport aux autres cantons. Moi, quand j'ai débarqué à Genève à 20 ans, on se moquait de moi, la jurassienne et tout ça. Et est-ce que vous avez étudié ça ? Moi, je trouve qu'il y avait une forme de... Et je ne sais pas si ça existe encore ou si c'était... si j'ai vieilli, mais je trouve que en Suisse romande, il y a beaucoup de discrimination entre les cantons par rapport au parler. Et je ne sais pas si...
Merci pour votre question.
Si je peux rebondir tout de suite, oui, dans nos commentaires, justement, souvent, certaines tournures et expressions sont connotées de « Ah, mais ça, c'est que les Vaudois qui le disent », et surtout des Vaudois paysans. Alors que, là, après, les résultats montrent le contraire. Oui, il y a beaucoup de préjugés. L'idée, c'est plutôt... Alors, on a cette idée stigmatisée un peu du français vaudois paysan. Les Valaisans ont plutôt, par contre, des commentaires plutôt sympathiques. Les Valaisans, ça évoque déjà le sud et les vacances. Je dis ça en plaisantant, mais c'est tout à fait le message qui passe. Donc, par exemple, même la prononciation différente des Valaisans est plutôt sympathique. Peut-être, alors ça, il faut qu'on le teste encore, mais disons la définition sympathique, agréable et tout pour des tournures valaisannes était assez surprenant dans l'enquête. Et les vaudois, vice-versa, c'était vraiment ceux qui sont connotés de manière assez péjorative. Les Genevois, par contre, c'est plutôt ceux qui se rapprochent de la norme, hein, de le, du bon, oui. Les Genevois. C'est plutôt eux qui auraient moins de régionalisme, alors qu'ils figurent aussi dans les réponses.
C'est surtout ceux qui se rapprochent le plus du français de France, hein, dans l'accent. Et souvent, c'est moyennement apprécié dans les autres cantons. Hein. On se moque assez volontiers. Faut pas. On se moquerait assez volontiers de certains accents genevois. Enfin, c'est pas qu'on s'en moquerait, plutôt on le rejetterait un petit peu. Mais ce que je voulais justement dire à ce propos, c'est que ça, on n'échappe pas à ce phénomène que les langues, en tant qu'objets sociaux, sont investies de valeurs et de rapports sociaux, souvent de domination, d'inégalité, etc. J'avais aussi une collègue qui a été travailler à la radio. Et on lui a fait changer son parler en lui disant il faut dire la radio, en ouvrant moins le haut. Hein, on ne dit pas un vélo, mais un vélo, etc. Donc ça existe bien, c'est des rapports de force qui existent toujours entre les langues. Alors à nouveau, l'école par exemple ne peut pas changer ses rapports sociaux. Hein, ils existent. Par contre, elle peut sensibiliser les élèves à ces rapports sociaux pour avoir une certaine distance par rapport à ces phénomènes. On aime bien se moquer du voisin. On peut le faire gentiment ou on peut le faire pour le rabaisser réellement. C'est là que se joue, je crois, le travail que peut faire l'école.
Monsieur, vous vouliez poser une question ?
Alors, on a entendu ce soir des quantités de fois le bon français. Et moi, je proteste contre ce nom du bon français. C'est quoi le français ? C'est issu d'un patois, d'un dialecte de l'Île-de-France que les Parigots nous ont imposé. Et ils se moquent de nous quand on parle avec un accent, quand on n'a pas les mots justes, ils se moquent de nous. Moi, je dirais qu'il faudrait plutôt louer et admirer les langages régionaux. Ce sont les nôtres, comme les Parisiens, ce sont le leur. Mais que les Parisiens ne nous disent pas « Ah, mais ça c'est du bon français chez nous, vous ». Vous ne savez pas vous exprimer. Je proteste là. Voilà.
Vous avez raison de protester, mais, et puis en tant que sociolinguiste, justement, je m'occupe de la variation linguistique. Donc notre but, en tout cas, que ce soit dans nos cours ou dans nos recherches, c'est justement d'étudier, de travailler sur le mot-clé est la variation. Donc, variation entre l'oral et l'écrit, variation selon le contexte social, variation selon le sujet qui est abordé. Mais quand même, je suis valdôtaine d'origine, j'ai appris le français comme L2, même si c'est une région bilingue, c'est un français L2, mais j'ai appris un français, le français de Paris. J'ai découvert 70, 80 et 90 en arrivant en Suisse, et j'étais choquée. On a appris un français, le bon français. Les subjonctifs imparfaits, bien sûr, l'accord des temps verbaux, et d'ailleurs, les Valdotins sont parmi les meilleurs dans les concours de dictée en francophonie. On a pris un français normé, standard, la norme de Paris. Et on a, toute mon expérience dans l'enseignement en tant qu'élève, en tant qu'enseignante, c'était le français standard, le français de Paris, aucune place pour la variation. Et c'est là que je pense qu'autant l'école ou que l'université a un rôle à jouer, c'est de montrer que cette variation, cette diversité existe bel et bien et qu'on ne doit pas être, voilà, après, avoir de l'insécurité ou de subir. Donc, on ne peut pas passer sous silence quand même ce rôle que la norme a, parce que c'est étonnant, et parfois je le dis, en arrivant à Neuchâtel, j'ai été choquée de voir combien les gens utilisaient le dictionnaire. En Italie, les dictionnaires n'existent pas dans les maisons. Les gens, pas de souci, la variation. Les gens ne savent pas s'il faut prononcer vraiment ou s'il faut telle tournure est vraiment de l'italien standard ou pas. Pas de souci à ce niveau. En France, en Suisse ou ailleurs, il y a beaucoup plus ce souci. Donc il faut qu'on parle de cette norme et qu'on l'aborde autrement et qu'on développe et qu'on dise qu'il n'y a pas qu'une norme. Il y a des normes, des pluriels. C'est ça.
Je suis totalement d'accord. Il n'y a pas le mot français régional dans le nouveau plan d'études, mais je ne pense pas non plus qu'il y ait le mot bon français. Je pense pas. On parle du français. Et je crois que la question, c'est celle de la qualité de la langue. Hein, c'est ce que j'ai voulu dire avant. La qualité d'un texte.
Il y a des critères quand même, et ce n'est pas facile, hein, mais on peut essayer de définir des critères de cohérence, des critères d'argumentation, de clarté, mais qui n'ont rien à voir avec une sorte de bon français comme ça qui serait une norme unique, etc. Mais à nous aussi d'oublier, et peut-être de ne pas parler trop non plus de bon allemand, hein, comme on le fait souvent.
Je me permets juste d'intervenir parce que vous parlez des normes qu'on impose à l'école. Et là, en fait, on voit très, très souvent qu'on me remarque dans une dissertation expression familière, français familier, ou bien s'il vous plaît, employez un langage soutenu. Et c'est là que le bas blesse, je dirais. Pourquoi, c'est quoi le critère pour dire c'est un français familier, donc on vous sanctionne, ou c'est un français soutenu, donc vous avez une bonne note?
Moi, je crois que je suis invité à répondre. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que dans les pratiques, on voit qu'il y a encore beaucoup de problèmes et que la norme reste très présente. Hein. Je l'ai dit dans cette citation de l'enseignant, de l'instituteur de 1970, mais ça n'a pas tellement changé chez un certain nombre d'enseignants. Là, il y a un rôle important de la formation, mais on a encore beaucoup de choses comme ça. Et certaines études aussi qu'on a menées dans le monde scolaire montrent que beaucoup d'enseignants ne sont pas très conscients de ces différences, confondent souvent français régional avec français non standard, français familier, etc. Mais par contre, la remarque français familier, ça dépend dans quel texte on est. Là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. C'est-à-dire que si je suis en train d'écrire une lettre de postulation, il ne faut pas de français familier. Mais si je suis en train d'écrire un texte littéraire, à viser un peu littéraire à l'école, je vais, selon le contexte, tout à fait pouvoir introduire des termes familiers. C'est donc toujours ce fait de chercher à adapter le langage à la situation.
Monsieur ?
Alors, bonsoir, merci à vous tout d'abord pour ce débat. Pour ouvrir le sujet un petit peu, on a beaucoup parlé donc de ce phénomène récent de parler de nos langues régionales comme le suisse roman, et ça pose débat, comme on voit, et presque polémique, je dirais. Et est-ce que du côté suisse alémanique, ils sont plus clairs par rapport à la place du suisse allemand par rapport à l'allemand dans l'éducation ou dans la vie quotidienne?
Alors,
je vais pas prendre trop de risques quand même, parce que c'est une question complexe, peut-être qu'Alain Canvert, que je vois presque rigoler, pourrait mieux répondre. Je ne sais pas si tu veux intervenir après, mais ce qu'on peut dire tout de même, c'est que comme partout où il y a des langues en présence, il y a des débats. Et c'est le cas aussi en Suisse alémanique. Et ces débats sont encore plus idéologiques actuellement en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Et ça, c'est peut-être le piège inverse à éviter. Il ne faut pas non plus cultiver à l'excès le régionalisme, comme c'est parfois le cas dans certaines régions alémaniques, où il faut, pour le dire clairement, et c'est ma position, hein, l'UDC, par exemple, soutient très fortement l'imposition du dialecte à l'école maternelle, hein. Et des choses comme ça. Alors, je pense que c'est excessif dans l'autre sens. Et il faut trouver un équilibre. Hein. Il est important, on le sait, donc, d'entrer par la langue maternelle dans l'enseignement. Donc, en tout cas, de ne pas exclure les dialectes alémaniques. Ça, c'est la position de la majorité des didacticiens. C'est qu'il faut prendre en compte le dialecte alémanique, mais il reste vrai que la langue écrite et la langue de l'école va progressivement être plutôt quand même le Hochdeutsch. Hein. Mais Alain.
J'aimerais juste appuyer ce que vient de dire Willy Haag. Le français que nous parlons est en fait un latin très familier, n'est-ce pas ? Quand on dit « la femme met la table », ça vient de « femina mittit tabulam », autrement dit « la femelle jette la planche », n'est-ce pas ? C'est ça notre français actuel.
Alors, voilà, bon. Monsieur ?
Oui, est-ce qu'on parle toujours le meilleur français à Neuchâtel ? Est-ce que c'est toujours d'actualité quand on sait que de nombreuses jeunes filles, des Suisses allemandes de bonne famille, sont venues dans nos pensionnats pour l'apprendre? Qu'en est-il actuellement?
C'est très vrai. Le Neuchâtel parlerait le meilleur français. Monsieur Berger, vous en pensez quoi, vous?
Non. Oui, mais c'est intéressant la remarque de monsieur. C'est vrai, on l'a entendu, ça, très souvent, le meilleur français, on le disait il y a 20, 30 ans. Alors, est-ce que c'est toujours valable? Je ne suis pas compétent pour répondre, mais tout comme vous, je l'ai aussi entendu. Je ne sais pas. Je me tourne vers les scientifiques.
Je crois que... Mais là, justement, il y a des professeurs de l'ILCF, de l'Institut de langue et civilisation française, qui sont mieux placés que nous pour répondre. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est une idée qu'on a beaucoup entendue. D'ailleurs, le professeur Philippe Terrier, l'ancien directeur de l'ILCF, en a aussi touché un mot récemment, disant que c'est... Oui, le rôle notamment de cette institution a fait que cette idée reçue, ce cliché, est-ce que c'est une demi-vérité que le français parlé à Neuchâtel est meilleur? En tout cas, d'après on a voulu tester ce paramètre dans un autre projet qu'on a en cours, le corpus de français parlé en Suisse romande, et voir si, par exemple, les Neuchâtelois utiliseraient plus de doubles formes de négation que d'autres Suisses romands. Est-ce que les Neuchâtelois utiliseraient plus « je ne mange pas », donc les doubles négations, que d'autres Suisses romands, notre corpus qui a maintenant... 800 000 mots ne peut pas valider cette idée. Donc, bon, on a testé que la double négation, ou on a testé aussi les formules d'interrogation. Est-ce qu'on ferait plus de l'inversion? Vas-tu au marché au lieu de tu vas au marché ou est-ce que tu vas au marché? Les données qu'on a de ce corpus ne semblent pas appuyer ça, mais tout est relatif, c'est un corpus. Hein.
Moi, je crois qu'il faut être clair. Avant tout, c'est des questions de nouveau sociales. Il y a une histoire. L'histoire, c'est que les cantons protestants ont été francisés très tôt, bien plus tôt, les cantons suisses protestants, bien plus tôt que la plupart des régions françaises, parlaient français. Les Neuchâtelois parlaient français bien avant la plupart des régions françaises. Ça, c'est un premier constat. Et les Suisses, les Neuchâtelois ont bien su vendre leur langue. C'est aussi des enjeux commerciaux, les langues. Il y avait beaucoup de précepteurs neuchâtelois qui ont été travaillés à la cour de Russie. C'était un métier qui s'exportait, prof de langue. Les Neuchâtelois ont très bien vendu leur bon parler. Mais je crois qu'il faut échapper à toutes ces discussions sur le meilleur français. Il faut absolument refuser ce concours, cette compétition du meilleur français. On perdra. Ça reste quand même Tours qui est reconnu, qui est perçu plutôt, voilà, le plus souvent comme le meilleur français. Si vous demandez un peu à l'étranger, mais ça, c'est le poids des agences françaises de promotion de la langue qui vendent les cours de langue à Tours, comme les Anglais les vendent à Cambridge, etc.
Mais pour ajouter un élément, c'est pour ça que j'ai ouvert mon ordinateur, justement le professeur Terrier, j'avais récemment un débat autour de ça, il m'avait donc transmis une information qui reste dans l'ordre de l'oral, qu'un ancien collègue, le professeur Roulet, professeur d'histoire à l'université de Neuchâtel, lui avait dit que, selon lui, et puis il avait dépouillé toute une série d'actes de documentation historique, selon lui, le roi de Prusse, Frédéric Ier ou Frédéric II, aurait fait courir le bruit que c'est à Neuchâtel qu'on parle le meilleur français. Il s'agissait de faire enrager le roi de France qui avait tout fait pour empêcher l'attribution de la principauté de Neuchâtel au roi de Prusse. Donc, je cite Philippe Terrier pour ça. Bon, l'autre élément qu'on peut rajouter, c'est quand même vrai que Neuchâtel, que les villes protestantes ont abandonné l'usage des patois, des dialectes franco-provençaux plutôt que dans d'autres régions, et donc ils sont passés au français plutôt, et donc ils auraient pris ce modèle justement du français. Mais
dans Pisa, c'est les Fribourgeois et les Valaisans qui sont les meilleurs. Hein.
Merci. J'ai une question méthodologique. Vous avez fait ces enquêtes par questionnaire. Est-ce qu'on obtiendrait des résultats similaires en travaillant comme les ethnomusicologues, c'est-à-dire en enregistrant discrètement des conversations? Est-ce qu'on arriverait au même résultat? Et je me permets encore une deuxième question dans la foulée, qui est plutôt pour François Berger. Est-ce qu'il n'existe pas chez certains juristes un jargonnage tout à fait extraordinaire? Je pense en particulier à un de vos confrères genevois. À tel point que, bon, ça donne l'impression qu'on se hisse à une grande hauteur. Auteur de connaissances, d'intelligence, mais finalement, ça éloigne le contact avec le peuple, en définitive. Et puis, je me permets encore une remarque. J'ai eu l'occasion de travailler... c'est la question de l'influence du bon allemand par rapport au patois local. J'ai eu l'occasion de travailler en recherche pharmaceutique avec un médecin, un vétérinaire berlinois, mais qui était pharmacologue et toxicologue. Et à mon grand étonnement, on avait décidé, donc c'était un travail de vacances pour moi, on avait décidé qu'entre nous, on essaierait de parler le bon allemand. Mais il s'avérait qu'il dominait parfaitement le suisse-allemand en 2 ans et de présence en Suisse. Et pourquoi ? Parce qu'il s'était offert comme volontaire pour assumer des gardes chez les paysans, pour dépanner ses confrères, et qu'évidemment, avec un paysan de Schwarzenburg, vous êtes très mal perçu si vous parlez le Hochdeutsch. Voilà.
Alors, 3 questions. Hein. Donc, par rapport à la première, la musicologie...
Ah oui.
Ethnomusicologie, qui voudrait répondre.
Par rapport aux enquêtes.
Oui.
Donc, justement, dans le cadre du projet du corpus de français parlé en Suisse romande, on enregistre en utilisant la même méthode que vous avez évoquée, c'est-à-dire qu'on enregistre des gens sur des sujets différents de manière semi-spontané, on a quand même un micro, on est quand même là, on s'intéresse quand même à leur langue. Et après avoir recueilli 150 heures d'enregistrement dans différents endroits en Suisse romande, on s'est justement rendu compte que le nombre de ces régionalismes, de ces tournures ou de ces mots régionaux n'était pas suffisant pour en faire une étude plus poussée pour dire où c'est, pour voir la localisation de ces tournures ou de ces mots et pour en dire aussi quelque chose quant à leur vitalité. Et c'est pour ça qu'on a fait cette enquête ciblée pour vraiment arriver à des résultats, plus pertinents. Et en disant ça, évidemment, j'appuie quelque chose que tu as dit tout à l'heure, je crois, il ne faut pas non plus y penser qu'on parle tout le temps, que dans chaque phrase que vous faites, vous mettez ces régionalismes. Ces régionalismes sont utilisés, oui, mais ils sont, l'usage est ponctuel, voire des fois rare. Il ne faut pas se faire impressionner parfois par des articles de la presse et tout, on nous met plein d'exemples dans 2 phrases et tout, personne ne parle comme ça. Donc, pour nous, ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, dans une optique aussi comparative et de continuité avec les travaux des années 70, de voir qu'est-ce qu'on pouvait en dire, autant du côté de la vitalité que de la distribution. Mais bien sûr qu'on fait ces autres enquêtes, et là, c'est pour étudier plutôt le français tel qu'il est parlé, pas forcément les régionalismes, quand ils sont là, oui, mais pas les régionalismes, c'est pour tester plutôt à l'oral quelles sont la diversité.
Et tout le monde a accès à cette banque de données, hein, d'enregistrement. Donc, si jamais vous trouvez toutes les coordonnées du site internet dans l'Uni News, et c'est vraiment très intéressant. On peut vraiment accéder par différentes entrées. Quoi.
Vous cliquez et vous pouvez entendre des locuteurs de toute la Suisse romande ont été enregistrés. La transcription est fournie aussi. Et puis, évidemment, et les données aussi sociobiographiques. Bon, l'anonymat est garanti. Mais on a les données s'il s'agit d'un homme, une femme, de l'âge et de la profession qui peuvent. C'est des paramètres qu'on va utiliser après pour des études pointues.
Concernant en fait maintenant la deuxième question, oui. Ah, oui.
Oui, monsieur, vous parlez de jargon juridique. Évidemment, c'est une expression qu'on entend souvent, que j'ai entendu souvent. Je crois vous dire, c'est très fortement exagéré. C'est très fortement exagéré. Parce que si vous prenez un texte de loi ou un jugement, que vous le lisez attentivement, vous apercevrez que les termes techniques, il y en a relativement peu. Que finalement, le langage est beaucoup plus simple qu'on ne dit ou qu'on ne veut le dire ou qu'on ne veut le penser. Vous avez des langages, des sciences humaines beaucoup plus complexes. Je pense en particulier à la philosophie. Alors là, oui, certainement que là, le langage est extrêmement complexe. Sûrement beaucoup plus que le langage juridique. Alors, vous parlez de confrères, je vois à qui vous faites allusion d'ailleurs, en particulier à Genève. Mais vous savez, je crois que si, pour reprendre vos termes, il y a ce jargonnage, il n'est pas propre au droit ou à l'activité d'auxiliaire de la justice qui est la sienne. Je crois que c'est lié à la personne. Mais je ne pense pas du tout que ce soit lié à son exercice professionnel. Vous avez des gens qui ont un jargon, c'est dans leur nature, qu'ils soient sociologues, juristes, juges, journalistes, peu importe finalement. Mais je ne crois pas que ce soit propre à l'activité qu'il exerce, au domaine qu'il exerce. Je ne crois pas. Je pense qu'il est beaucoup moins compliqué qu'on ne le dit. Il y a des termes, c'est vrai, qui sont parfois assez techniques, mais dans l'ensemble, la lecture d'un jugement... n'est pas d'une très grande complexité. S'agissant du langage, n'est-ce pas, de celui-ci. Voilà.
Et concernant la troisième question, en fait, c'est ce rapport à la langue, à la véritable langue, celle du terroir, pour faire partie d'un groupe. Enfin, c'était ça avec les agriculteurs, hein, donc pouvoir aller. Qu'est-ce qu'on peut répondre à...
Quelle est la question ?
C'était de...
Dans cette bagarre, si on veut, entre le suisse allemand et le hors-deutsch pour l'enseignement, moi je pense que ce vétérinaire, le fait qu'il ait adhéré tout de suite et qu'il a certainement dû faire de grands efforts pour apprendre le patois de la région de Schwarzenbourg, mais c'est ça qui lui a aussi permis de s'intégrer rapidement auprès des agriculteurs.
C'est le respect des différences, en fait. Hein. C'est, voilà.
Oui, c'est extraordinaire.
Oui, oui.
En général, ils sont réticents à parler de patois.
Effectivement, mais la question se pose directement en lien à la question des élèves allophones, des élèves d'autres origines linguistiques. Mais effectivement, en général, ils parlent très bien le suisse allemand, hein, bien plus vite que le hors-deutsch. Hein. Donc, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, avec ça. Hein. Je voudrais peut-être juste revenir sur le... Alors, je connais moins bien le langage juridique, mais parfois le langage administratif, je dirais. On a parfois l'impression, moi là je parle aussi en tant que simple citoyen, hein, que certains contrats d'assurance, certains cultivent un certain langage ésotérique pour éviter qu'on le comprenne. Et je signale ce fait-là parce que, pour l'avenir de la langue française, il est important de gérer ces questions-là. Et c'est une question à laquelle les organismes de politique linguistique qui sont réunis dans quelque chose qui s'appelle OPAL, Organisation de politique linguistique de la francophonie, travaillent sur cette question, en particulier les Belges. Comment simplifier les textes administratifs? Et ça fait partie pour moi de ce qui est vraiment une réflexion sur la langue et sur la qualité de la langue, au sens d'une qualité d'une langue citoyenne, d'une langue qui est au service du citoyen et non pas le citoyen au service de la langue. Hein, et là, je crois qu'il y a quelque chose à dire pour cette
partie-là.
Oui, non,
mais vous avez tout à fait raison. Puis vous citez un exemple qui est l'objet de litige. C'est effectivement une police d'assurance avec des clauses pas toujours parfaitement claires et qui peut entraîner la personne à signer un contrat qu'elle n'a peut-être pas vraiment voulu. Mais alors, il faut ajouter ceci, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la personne peut évidemment consulter un juriste pour être éclairée, mais elle n'a pas forcément envie de faire cette dépense, bien sûr. Mais ce qu'il faut par contre savoir, c'est que le co-contractant, la personne qui est emprunt un litige ou qui se sent trompé par un contrat est protégé. On a un terme, indubio contra stipulatorem, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit avec le co-contractant, l'assurance, pour prendre cet exemple-là, on interprétera toujours les clauses de la police en défaveur de l'auteur de la police. Ça, faut savoir ça. Donc, il y a quand même des règles, ce sont des règles jurisprudentielles qui permettent effectivement à la personne de se défendre en disant, mais voilà, pour moi, ça avait tel sens, j'étais pas engagé, par exemple, si longtemps, hein. Et là, à ce moment-là, on va interpréter le contrat en faveur du co-contractant contre l'auteur de la police.
Alors, peut-être vite pour conclure, parce qu'on arrive vraiment au bout de ce café scientifique. On est tout au bout. Vous disiez une langue au service du citoyen et non pas le contraire. Ça pourrait être l'objet de la conclusion. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à dire ? Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose pour terminer la discussion ?
Un mot à mon cher ami Monsieur Willy Haag, qu'on se connaît depuis tellement d'années. Zut, alors, il a peur. Mais il n'y a pas de raison. Non, mais je comprends votre remarque concernant la France, Paris, la langue française. Oui. Mais vous êtes peut-être un peu trop sévère, mais je pense que vous l'avez dit avec humour. Je vous connais, je vous sais suffisamment fin et intelligent pour et connaître votre esprit de nuance. Mais il faut quand même rendre hommage, tout de même, à ces grands unificateurs des langues, à ceux qui, tout de même, se sont trouvés à un moment donné de l'histoire, et le français dont vous parlez, ça remonte, ça fait Saint-Louis à peu près, n'est-ce pas ? Qui, à un moment donné, donnent une définition, défendent un parler. C'est au fond quoi ? C'est un dialecte qui, par un événement politique, devient langue. C'est ça une langue finalement. C'est un dialecte qui à un moment donné, par un événement ou un concours d'événements, souvent politique, devient langue. Et c'est positif aussi. Et c'est pas seulement le cas pour la France, comme vous le savez, c'est aussi le dialecte toscan parlé à Florence sous l'égide de l'impulsion de Dante Alighieri est devenu l'italien. Hein. Donc j'entends ces grandes forces de concentration sont aussi très positives pour les pays. Voilà, je voulais juste faire cette remarque.
Voilà. Alors très très vite, hein, volontiers, mais vite.
Parce je vais juste lire une citation de Ramu pour finir de manière qui je crois reprend bien ce que vous dites. Mais il disait dans une lettre à Bernard Grasset, hein, dans certains débats littéraires de Ramu dans les années 30, j'ai l'honneur d'appartenir à un pays qui de tout temps et très authentiquement depuis toujours est rattaché à la grande famille des dialectes français. J'écris en toute liberté une langue qui est la mienne, une langue vivante, que je n'ai pas eu besoin d'apprendre, qui est à moi comme l'est à vous, le français, une espèce de français.
Voilà, je crois que ça conclut bien ce café scientifique. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci.